Publicité.
Attention, entrepreneurs et professionnels de la comptabilité, il est temps de transformer votre gestion d'entreprise avec Akumbago, la solution web 100% québécoise conçue pour vous. Depuis plus de 35 ans, Akumbago soutient les PME d'ici en vous offrant un écosystème complet pour optimiser chaque aspect de vos opérations. Facturation flexible, gestion des clients, fournisseurs et bien plus. Choisissez le forfait qui vous convient et bénéficiez d'un service de qualité en français depuis le Québec. Visitez dès maintenant akumba.com pour découvrir leurs solutions ou planifier une démo. Akumbago, l'allié des entrepreneurs du Québec. Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 19 avril 2024. Une édition pas mal plus courte que d'habitude, mais une émission tout aussi intéressante. Et c'est ça qui est important. Au sommaire cette semaine, on va parler avec un des patrons de IBM au Québec pour en connaître un peu plus sur leur intelligence artificielle, Watson X. On en parle peu, mais vous allez voir que ça vaudrait la peine de la connaître. Bien sûr, juste après les actualités, on va aller rejoindre à Paris mon collègue et ami Jérôme Colombin pour parler aussi d'actualité. Et j'ai aussi Stéphane Ricoul qui est là avec moi pour nous amener au Costa Rica. Et Jean-François Poulin, pour sa part, il va nous parler avec son invité d'architecture et d'utilisation des approches UX dans ce secteur. Permettez-moi de saluer 5 auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Allegrina Cohen, Nadine Ouellette, Sophie Perron, Marie-Claire Tremblay et David Manfroy. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutez, qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est très apprécié. Et puis aussi, ce qui est très apprécié, ce sont les mentions que j'ai vues apparaître ici et là sur les sites d'agrégation, sur les services d'agrégation de podcasts, de balado. J'ai vu des notes, j'ai vu des commentaires. Alors, à vous qui l'avez fait, je vous remercie. Et puis à vous qui peut-être pourriez le faire si vous prenez une minute de votre temps. Vous savez l'application à partir de laquelle vous prenez mon carnet, ben allez y ajouter un commentaire, allez ajouter des étoiles. Évidemment, 5 si vous aimez beaucoup mon carnet, parce que ça, vous savez que les commentaires que vous laissez, les étoiles que vous laissez, ben c'est autant d'informations qui permettent à Apple, mais Spotify aussi, de mettre de l'avant la balado. Et puis aussi, pour les gens qui découvrent, qui cherchent, ben de voir qu'il y a des gens qui aiment, qui apprécient, et les raisons pour lesquelles ils apprécient cette balado-là, ben ça donne autant d'argumentaires et ça pousse les gens à écouter. Donc, à découvrir mon carnet pour les gens qui ne connaissent pas. Alors, j'arrête ici l'introduction et puis, du coup, comme diraient les Français, on s'en va à l'actualité. Alors, pour ce qui est des choses qui ont attiré mon attention cette semaine et dont je voulais partager le contenu avec vous, ben, il y a évidemment Meta qui a présenté jeudi sa toute nouvelle intelligence artificielle, Llama 3, qualifié d'assistant AI le plus intelligent au monde pouvant être utilisé librement. Ça, évidemment, ce sont les gens de Meta qui disent ça. L'entreprise a également lancé son nouveau site web, meta.ai, pour faciliter l'accès à cette intelligence artificielle révolutionnaire pour reprendre leur thème. Je vous laisse entendre Mark Zuckerberg présenter sa nouveauté et grâce à la magie de l'intelligence artificielle, mais pas celle de Meta, mais celle de Rask.ai, eh bien vous l'entendrez s'exprimer en français.
Nous lançons la nouvelle version de Meta AI, notre assistant auquel vous pouvez poser n'importe quelle question dans nos applications et nos lunettes. Notre objectif est de construire l'IA la plus performante au monde et de la mettre à la disposition de tous. Aujourd'hui, nous mettons à jour Meta AI avec Llama 3, notre nouveau modèle d'IA de pointe que nous mettons en open source. Mais l'essentiel est que nous pensons que Meta AI est désormais l'assistant d'IA le plus intelligent que vous puissiez utiliser librement. Pour rendre Meta AI encore plus intelligent, nous avons également intégré les connaissances en temps réel de Google et de Bing dans les réponses. Nous facilitons également l'utilisation de Meta AI dans toutes nos applications. Nous l'avons intégré à la boîte de recherche qui se trouve en haut de WhatsApp, Instagram, Facebook et Messenger. Ainsi, à chaque fois que vous avez une question, vous pouvez la poser à cet endroit. Et nous avons créé un nouveau site web, meta.ai, pour l'utiliser à partir du web. Nous lançons également un certain nombre de fonctionnalités de création unique. Meta AI crée désormais des animations et des images de haute qualité si rapidement qu'il génère et met à jour les images pour vous en temps réel pendant que vous tapez. C'est assez impressionnant et vous pouvez le découvrir dès maintenant sur WhatsApp ou sur le site web.
Donc, en plus d'un site dédié qu'on trouve sur meta.ai, le géant des réseaux sociaux ajoute un accès à son IA à partir des barres de recherche de WhatsApp, Instagram, Facebook et Messenger. Avec 3 milliards d'utilisateurs seulement pour Facebook, imaginez, si les gens commencent à l'utiliser, ça pourrait devenir facilement l'IA générative de référence sur Internet. Et en plus de générer des textes, ben, Llama 3 propose également des fonctionnalités de création d'illustrations. Mais pour le moment, l'outil ne fonctionne officiellement qu'en anglais, mais bizarrement, j'ai fait des tests jeudi avec une requête en français et il m'a généré un texte en français parfait pour l'effacer aussitôt et me dire que pour le moment, il ne fonctionnait pas en français, mais que ça arriverait bientôt. J'ai relancé ma requête une seconde fois parce que je me souvenais de l'avoir vue devant mes yeux en français. Donc, cette requête-là, je l'ai toujours fait en français et j'ai vu apparaître le texte en français une seconde fois, mais là encore, il a disparu devant mes yeux pour me servir le même message. Donc, ben, il va falloir patienter. Bref, ça fonctionne en français, mais je présume que pour le moment, ils sont encore en train de faire des tests. Et chose importante à souligner, Meta confirme qu'il prend l'approche ouverte avec l'annonce de la publication en open source de ses premières versions de Llama 3 à 8 milliards et à 70 milliards de paramètres d'apprentissage. Si vous êtes curieux de savoir, la nouvelle version proposée compte plus de 400 milliards de paramètres d'apprentissage. Et tant qu'à parler de Meta, autre information à leur sujet est particulièrement intéressante pour les gens qui ont investi récemment dans l'achat d'un casque Quest 3. Meta se prépare à introduire une nouvelle fonctionnalité très attendue pour ses casques de réalité virtuelle, un mode voyage qui finalement va arriver, spécialement conçu pour une utilisation en avion ou en train, si vous voulez. Une fonctionnalité rendue presque obligatoire après le lancement de l'Apple Vision Pro, qui, lui, propose une fonctionnalité comme celle-là. Meta devait ajouter cette fonctionnalité pour rester compétitive sur le marché. La mise à jour logicielle, la V64, qui est sortie au mois d'avril pour le Quest 3, a déjà rapproché l'expérience d'utilisation de celle de l'Apple Vision Pro, avec notamment des améliorations en termes de gestion du flou, du mouvement et de la clarté d'image. Et ça, c'est en plus de l'intégration aussi de la prise en charge des vidéos spatiales capturées par l'iPhone 15 Pro, ce qui enrichit évidemment l'expérience multimédia du casque. Meta envisagerait donc de déployer cette fonctionnalité pour les voyageurs dans la prochaine mise à jour, la V65, qui pourrait être disponible dès le mois prochain. Ce mode permettra aux utilisateurs de regarder des films et des émissions de télévision pendant le vol, une fonctionnalité, je rappelle, qui est mise de l'avant par Apple avec son Vision Pro. Outre ces améliorations, Meta cherche également à améliorer le multitâche sur le Quest 3 parce qu'actuellement, c'est limité à 3 applications ouvertes en même temps, alors que l'Apple Vision Pro permet une utilisation bien plus extensive de fenêtres virtuelles dans un espace donné. À moins d'un mois de son événement pour la communauté des développeurs de l'écosystème Google, le géant américain annonce la fusion des équipes Android et celle des matériels pour créer la nouvelle division Platform and Device. Cette initiative marque un effort significatif dans l'intégration de l'intelligence artificielle à travers tous ses produits, y compris les téléphones Pixel, les logiciels comme Chrome ou les services comme Photo. Chez Google, on souhaite, avec cette fusion, pousser l'innovation là où elle est nécessaire, avec une collaboration plus étroite entre les équipes de logiciels et les équipes qui confectionnent le matériel. L'objectif, c'est de profiter de l'intelligence artificielle pour améliorer les fonctionnalités des produits Google, notamment l'appareil photo de Pixel, déjà célèbre pour la qualité d'image supérieure grâce à l'intelligence artificielle. Et cette annonce survient alors que le patron de DeepMind, la filiale d'intelligence artificielle de Google, a annoncé récemment que les investissements de la société dans l'intelligence artificielle dépasseraient les 100 milliards de dollars à long terme. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle plateforme pour vous exprimer, vous pourriez peut-être être intéressé par le nouveau réseau social AirChat ou AirChat. Enfin, je devrais pas dire nouvelle plateforme parce que AirChat a été lancé l'an dernier, mais disons que ça avait pas vraiment retenu l'attention, mais là, il semble bien que ça soit la bonne et que le vent est en train de prendre dans les voiles. La plateforme issue de la Silicon Valley, relancée là récemment, vient d'enregistrer plus de 45 000 téléchargements seulement en quelques semaines. Ce qui retient l'attention et la curiosité avec AirChat, c'est que le réseau social utilise l'interface vocale Pour publier du texte ici, vous oubliez le clavier pour écrire votre texte, vous devez le dicter à votre téléphone et par la suite, une IA en fait automatiquement la transcription. Et ça fonctionne très bien en français, je me suis amusé depuis 2 jours, quoique la majorité des conversations qu'on y retrouve se tiennent en anglais. En tout cas, la plateforme est parfaite pour les gens qui ont de la difficulté à l'écriture. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut entendre les textes qui sont envoyés par les utilisateurs. Pour en faire l'essai, il faut d'abord télécharger l'application via l'App Store ou la boutique Google Play. Selon son appareil, la plateforme dit y assurer une modération communautaire, mais reste à voir comment AirChat va évoluer dans le temps avec les défis de la modération, avec l'arrivée d'un plus grand nombre d'utilisateurs et puis les trolls qui suivent, qui vont sûrement s'en donner à cœur joie. Cette plateforme qui mise sur la voix, ce n'est pas la première dans le domaine des applications basées sur la communication vocale. Souvenez-vous, durant la pandémie, il y a Clubhouse qui avait connu un pic de popularité avant de voir son intérêt décliner rapidement. Mais je vous assure, Clubhouse existe toujours. Mais pour revenir à AirChat, bien que prometteuse, cette application qui priorise les messages vocaux pour encourager la civilité a quand même des termes qui permettent une utilisation extensive des données d'utilisateurs, allant jusqu'à autoriser la création de travaux dérivés sans compensation. Malgré les assurances d'un des cofondateurs qui dit que l'intention n'est pas d'exploiter ces données de manière déplacée, les utilisateurs, comme dans la plupart des réseaux sociaux et des nouveaux réseaux sociaux, les utilisateurs sont invités à rester vigilants. L'histoire des réseaux sociaux montre que les promesses initiales peuvent être mises de côté face aux opportunités commerciales, surtout dans un contexte où l'IA devient un atout commercial précieux. Vous n'avez qu'à penser qu'à des plateformes comme Facebook, Instagram et d'autres qui ont changé leur type d'utilisation des données laissées par les utilisateurs au fil des années. L'Observateur des technologies médias, un service de Radio-Canada CBC, nous apprend dans sa plus récente édition de l'enquête « Les nouveaux arrivants et les téléphones cellulaires » que la possession d'un téléphone cellulaire est quasi universelle parmi les nouveaux arrivants, avec un taux d'adoption, imaginez, de 100%, légèrement supérieur à celui des Canadiens de naissance, qui est, elle, de 97%. Le rapport révèle également que 57% des nouveaux arrivants ont acquis leur premier téléphone mobile après leur arrivée au Canada, avec une tendance plus marquée chez les individus plus âgés. 66% des nouveaux arrivants âgés de 45 ans et plus ont acheté leur téléphone après leur arrivée, comparativement seulement 44% des jeunes âgés entre 18 et 24 ans. Pour ce qui est de leur utilisation, on remarque que la majorité utilise leur téléphone pour regarder des émissions de télévision ou des films via des services de vidéo à la demande et que 57% d'entre eux privilégient leur téléphone pour ce type de contenu par rapport à d'autres plateformes, notamment la télévision. Ce rapport met en lumière non seulement l'importance des téléphones mobiles pour les nouveaux arrivants, mais aussi leur rôle dans l'adaptation à la vie au Canada. Les téléphones cellulaires ne sont pas seulement des outils de communication, mais ils sont devenus des vecteurs essentiels de l'intégration sociale et culturelle. Allez hop, direction Paris pour retrouver Jérôme Colombin et notre échange hebdomadaire.
Toc, toc, toc. Bonjour, Bruno Guglielminetti, vous êtes là?
Qui va là? Salut, Jérôme Colombin.
Salut, on se retrouve comme chaque semaine de part et d'autre de l'Atlantique pour ce débrief.
Et pas mouillé, écoute, quand même.
Ouais. Et pas mouillé, en plus. Et mouillé, exactement. Ouais. Et en plus, ce débrief, on le sait, apparemment, plaît à nos auditeurs respectifs, hein, si on en croit les retours.
Ouais, alors merci beaucoup à tes auditeurs, puis merci aux miens, parce que j'ai vraiment que des bons commentaires. On se fait plaisir et on fait plaisir.
Et cette semaine, Bruno, on a prévu de parler de 2-3 petites choses, et notamment d'un sujet qui t'a été soufflé par un de tes auditeurs, c'est ça?
Ouais, écoute, c'est cette semaine, il y a eu plusieurs publications de nouveaux objets, de nouveaux outils dans le contexte de l'AI et de la production. Je pense à Vehicle AI qui permet de remplacer quelqu'un sur une vidéo. Je pense à Adobe qui a annoncé, mais vraiment là, une méta-bombe d'intelligence artificielle dans Premiere Pro. Je grossis l'affaire, là, mais qui permet presque maintenant aux gens de ne pas connaître le logiciel, mais tout simplement d'ouvrir Premiere Pro et d'écrire
ce qu'ils veulent faire.
Ouais, enlever un bout, rajouter un bout, mais un bout qui est même pas là. C'est donc c'est encore plus que créer des séquences.
Générer du contenu.
Oui, tout ouais. à fait. C'est un peu Sora, Runway, Pika, Firefly Video et Journey, mis bout à bout et mis dans Premiere Pro. C'est vraiment impressionnant. Puis, plus récemment, ben, il y a Microsoft qui vient de présenter Vasa 1, qui est une intelligence artificielle. Ça se fait déjà, mais c'est juste que c'est vraiment bien fait, qui permet de prendre une photo, de rajouter un fichier audio. Et à partir de ce moment-là, elle synchronise la photo qui devient de la vidéo avec les paroles qu'on envoie, mais incluant une très bonne synchronisation par rapport aux lèvres, mais aussi par rapport à l'émotion dans le visage. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et suite à ces publications-là...
Mais c'est vrai que ça ressemble, pardon, à ce que Google a lancé il n'y a pas longtemps, qui s'appelait qui s'appelle Vlogger. Hein.
Exactement, ou Wemo d'Alibaba, qui existe déjà depuis un moment. Donc, ces publications-là ont fait dire à mes abonnés, et je trouve ça tellement bon, mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Sur le coup, je vais être honnête avec toi, là, j'ai dit, bon, quel rabat-joie. Puis après, ça m'est revenu en tête, j'ai dit, mais il a pas tort.
Finalement.
Il a pas tort. En tout cas, c'est de lancer la réflexion. Alors, je te la pose, Jérôme, est-ce qu'on a besoin de tous ces outils-là?
Ah là 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 là. C'est vrai que la question est super intéressante et je pense que chacun dans son coin peut y réfléchir. Moi, je suis un peu convaincu que oui, on a besoin. Alors, besoin, c'est pas le mot, mais l'innovation technologique et notamment dans le numérique, elle s'est souvent construite par des choses futiles. C'est beaucoup par la porte d'entrée du divertissement. C'est beaucoup par regarde toutes les applications de correction les filtres pour corriger son visage, etc. Alors c'est pas la notion de besoin, effectivement il y a des enjeux plus graves dans le monde et on pourrait se dire que ces solutions là ne résolvent aucun problème important, mais ça fait néanmoins partie de la vie et surtout ça fait avancer le bouchon en fait. Ouais. Donc moi je pense que besoin, c'est peut-être pas le mot, mais ce n'est pas inutile, en fait, ces choses-là. Et toi, qu'est-ce que tu en penses?
C'est probablement l'exemple d'Adobe et de Premiere Pro, moi, qui viennent me chercher dans l'aspect de on n'en a pas de besoin, mais ça vient faciliter la vie. Ouais. Parce que Premiere Pro, c'est un bijou comme logiciel, mais la courbe d'apprentissage, de temps en temps, elle est longue.
Ouais, c'est une usine à gaz.
Et ça va permettre d'avoir cette approche-là. Donc, un Premiere Pro qui carbure à l'IA, d'arriver à faire des choses que normalement, ça prendrait quelques heures derrière le clavier pour arriver à faire un truc comme ça pour quelqu'un qui commence. Tandis que là, on voit un peu comme Photoshop. Hein, Photoshop, ils ont commencé à utiliser l'IA là-dedans et puis ça facilite le travail. Donc, moi, je trouve que ce sont des améliorations et ce sont des outils, dans certains cas, des nouveaux outils qui sont bienvenus. Puis oui, on n'en a pas besoin pour vivre, sauf que ça vient faciliter la tâche comme 80% des applications qu'on a sur nos téléphones.
Alors bien sûr, on parle d'applications professionnelles. Nous, ça nous touche parce que c'est dans notre univers, mais ça ne concerne pas du tout le grand public. Mais ce sont des choses effectivement utilisées par des milliers, des millions de gens à travers le monde et c'est des outils de production qui sont...
Mais pense à une application comme Vasa de Microsoft qui te permet de prendre une photo et de la faire vivre, un peu comme on voyait dans les films d'Harry Potter où tout le monde avait été ébahi par ces cadres, ces peintures qu'on voyait bouger sur un mur. Ben avec Vasa, c'est un jeu d'enfant d'arriver à faire ça avec une photo qui date de l'époque de votre grand-père, votre arrière-grand-père. Et c'est des trucs comme ça que moi, j'avoue que je trouve intéressant de voir que c'est là, c'est disponible. Et puis, mais enfin. Mais Jérôme, parlant d'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui est sorti en France par rapport à la relation que les Français entretiennent avec l'intelligence artificielle.
Oui, absolument. Alors, c'est assez intéressant, ce sondage. C'est la deuxième édition d'un baromètre qui révèle que les Français, eh ben, écoute, aiment bien l'intelligence artificielle. Ils sont très utilisateurs des nouveaux outils d'IA générative. Plus de 60% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Alors, ce sont surtout les jeunes qui les utilisent, hein, 18-24 ans, 25-34 ans, etc. Et ceux qui n'utilisent pas, en tout cas, en ont entendu parler, puisque 78% des Français ont entendu parler de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, c'est un peu difficile de passer à côté actuellement. Ouais. Et il y a un autre chiffre dans ce sondage, il y a plein de chiffres intéressants, et j'en parle d'ailleurs cette semaine dans Monde Numérique, notamment 35% qui déclarent qu'ils ont d'ores et déjà du mal à s'en passer de l'IA.
Quand même.
Ouais. Alors, c'est souvent pour des raisons professionnelles, hein, parce que c'est souvent dans le cadre professionnel que ça se passe. Et d'ailleurs, les entreprises, apparemment, il y en a à peu près une sur deux qui encouragent leurs collaborateurs aujourd'hui à utiliser de l'IA. Et ça aussi, je trouve c'est intéressant parce que c'est un revirement. Au début, c'était pas comme ça. Au début, dans beaucoup d'entreprises, il y avait une énorme crainte, et notamment dans les médias, où on fabrique de l'information, eh bien, chez nous, c'était plutôt une hyper méfiance en disant « attention, attention, il ne faut pas utiliser ça, il ne faut pas faire d'images générées par IA pour des illustrations, il ne faut pas essayer de chercher de l'information sur ChatGPT. » Et puis là, eh bien, d'une part, les outils ont déjà évolué par rapport à ce que c'était au début, et d'autre part, eh bien, il y a une appétence et une appréhension qui est vachement… Enfin, appréhension au sens le fait d'appréhender, hein, les Français s'y mettent à fond. Les Français sont geeks finalement, c'est étonnant, hein. Et en plus, et même ils n'ont pas peur de l'IA majoritairement.
Est-ce qu'on a posé la question quelle IA ils utilisaient? Est-ce que c'est l'américaine ou est-ce que c'est la française?
Alors en premier, ça ne te surprendra pas, c'est ChatGPT à 66%, dont 11% en version payante. Quand même.
Ah, car ouais, c'est bon.
Oui. Ensuite, c'est Gemini de Google, Copilot de Microsoft, mais par votre, enfin, c'est donc ChatGPT hein, qui est derrière. Ouais. Voilà. Et tu parlais de Adobe, eh bien, c'est Firefly de Adobe.
Ah ouais.
Firefly, cette palette d'outils pour générer des images, retravailler des images également, qui est disponible en ligne avec certaines fonctions qui sont gratuites et d'autres qui sont payantes. Et ça fait des trucs assez fantastiques d'ailleurs, Firefly.
As-tu l'impression que l'échantillonnage, les entrevues ont été faites avant la sortie de Mistral et que Mistral aurait peut-être trouvé une place là-dedans?
Peut-être. Alors attends, j'ai pas la date sous les yeux, mais sur ma source, ça c'était noté. J'aurais dû noter la
date. Parce que vous êtes tellement chauvin que...
Est-ce que les gens se sont rués sur le chat? Je ne sais pas. Parce que Et d'ailleurs, on dit le chat, hein. Vous m'aviez repris avec François Sorel, mais on dit bien le chat et pas le chat. C'est ça le gag. C'est que c'est français. Mais oui, monsieur. Donc, le ChatGPT de Mistral, c'est le chat.
Ouais, le chat.
Mais bon, il n'est pas très connu, le chat, hein, il faut bien dire.
Mais quand même, il y a AWS qui a fait un bel hommage en l'intégrant dans dans sa trousse d'outils là, de Bedrock.
Ben, c'est la force des outils de Mistral. Il y a trois outils, je crois, hein, du plus petit au plus gros. Ouais. Et effectivement, il peut être embedé dans des tas de plateformes différentes et dans des tas de solutions différentes.
Ouais, puis l'avantage, je pense que c'est important de le dire, c'est que comparativement aux autres outils qui ont été développés, qui sont très américano, là, dans le cas du chat de Mistral, tu vois le plus comme ça, il s'est vraiment conçu avec une vision européenne. Et donc, si vous cherchez ce type d'apprentissage derrière l'intelligence artificielle, ça devient un incontournable. Et ça aussi, c'est important.
Oui, c'est important, mais je n'ai pas suffisamment testé le chat pour éprouver ce côté européen. Je ne sais pas si toi, tu
Ben, écoute, moi, j'ai fait le test. Il te connaît, il connaît François Sorel, et il n'y a aucune idée de qui je suis.
Ah bon? Ah ouais, non, mais carrément, c'est du chauvinisme. C'est plus du l'européanisme, c'est du chauvinisme.
Non, c'est du protectionnisme.
Oh, mais ChatGPT aussi, je crois, il me connaît et il te connaît.
Oh, oui, il te connaît très bien, ChatGPT.
Oui, mais il te connaît aussi.
Oui. Ah oui, il me parle de toutes ces années où j'ai... À l'époque, au début, et il me parlait de toutes ces années où j'avais travaillé au journal Le Monde.
Ah bon? Oui.
Mais après, le tir a été rajusté.
C'est vrai qu'il nous invente des carrières. Oui, François Sorel, je ne sais plus, il l'avait mis à l'équipe ou je ne sais où.
Oui, mais non, c'est ça. Mais maintenant, tu lui poses la question, puis il sait qui on est, tant mieux. Hey, avant de te laisser, je voulais voir avec toi si tu avais vu passer cette nouvelle-là. Moi, j'en ai parlé dans une infolettre. L'impact insoupçonné des réseaux sociaux sur nos ongles.
Ceux qu'on
trouve là, au bout de nos doigts. Là.
J'ai vu ta news et ton article là-dessus. Je trouve ça très intéressant. Mais raconte-nous ça. C'est-à-dire, c'est le fait de scroller qui abîme les ongles?
Ben oui. C'est Jason Adler qui a écrit quelque chose là-dessus. C'est un ingénieur qui est dans le domaine de l'Internet. Et lui, son commentaire général, puis je pense que ça résume assez bien l'histoire, c'est que le balayage, la saisie et le défilement constant sur nos appareils sont autant de stress pour nos ongles qui, comme le reste de notre corps, révèle notre état de santé générale. Et lui, c'est basé sur deux études récentes qui ont été faites par des boîtes qui s'intéressent aux ongles. Ouais. C'est des boîtes commerciales là, qui s'intéressent. Mm-hmm. Et donc, test après test, ils ont remarqué que la santé des ongles était meilleure chez ceux qui utilisaient moins les réseaux sociaux en général, moins leur téléphone.
Mais attends, je comprends pas parce qu'on n'utilise pas ses ongles sur l'écran en général. Alors, moi, si, sur le trackpad de mon ordinateur, c'est beaucoup avec les ongles. Mais je pensais que c'était une anomalie personnelle. Donc
non, cette étude-là qui a été faite par Intechnopen et NailMag, ces deux études séparées là, qui ont été faites, et évidemment, ils s'intéressent à un marché qui se préoccupe de leurs ongles, qui est en grande partie féminin. Et ce sont des...
Donc, les femmes scrollent avec les ongles?
Ben, semble-t-il, ouais.
C'est bizarre. En plus, si elles ont les ongles longs, c'est pas très facile. Bah, écoute, alors j'espère qu'il y a des femmes qui nous écoutent et qui pourront témoigner.
Que finalement, ils se sont gourés. Mais moi, évidemment, quand j'ai vu cette histoire-là, j'étais un peu sceptique, mais j'ai été voir les deux études, effectivement. Plus on utilise les Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok sur notre téléphone mobile, et plus on endommage nos ongles.
D'accord. Ouais. Ah bon, bah écoute, donc on va, c'est une raison de plus pour lever le pied, enfin pour lever l'ongle, plus exactement.
Et après, on dira qu'on donne pas d'informations crédibles et intéressantes quand on se parle.
On est quand même au top de la technologie, hein.
Bah alors, regarde.
Bruno, encore un mot. Tu sais que ça m'interpelle là, le fait que ton auditeur t'ai posé une question, et moi je me dis qu'on devrait peut-être inviter nos auditeurs respectifs à nous suggérer effectivement des pistes de réflexion, soit à nous poser des questions, soit à nous interroger sur des sujets d'actualité, ou à nous donner leur avis. Et ça pourrait être intéressant pour nourrir cet échange.
Oh ben, écoute, défi accepté, on invite autant les tiens que les miens. Et puis si vous voulez pousser la note encore plus, vous nous envoyez ça par un fichier audio.
Par vocal, bien sûr.
Comme ça, vous pourrez vous entendre.
Ben ouais. Eh oui, sur le site mondenumérique.info, il y a un petit bouton. Il suffit de cliquer pour envoyer un fichier audio.
Mais tu fais exprès. Hein? Moi, c'est encore plus simple. Vous enregistrez à partir de votre téléphone et vous m'envoyez le fichier audio sur moncarnet.com et ça sera fait. Mais on vous invite et puis peut-être que vous pourrez entendre réponse à votre question. Jérôme, là, je vois le temps passer et je sais que tes auditeurs veulent entendre la suite de ton podcast. Tu parles de quoi cette semaine?
Alors, cette semaine, je parle d'exosquelettes. J'ai rencontré une grande marque qui fabrique des exosquelettes.
Une marque française?
Non, c'est une marque allemande. C'est européen. Et c'est intéressant parce que ça permet de rappeler un peu ce que c'est qu'un exosquelette, comment ça marche, à quoi ça sert, quelles sont les potentialités. Et il y a de plus en plus d'intelligence dans les exosquelettes avec la récupération, le traitement des données pour faire toutes sortes de choses. Et je parle également du numérique au service de la culture, avec une innovation très sympa d'une start-up française qui permet de dialoguer virtuellement avec des personnages de l'histoire. Donc, c'est un petit chatbot et tu peux poser tes questions et tu peux avoir une conversation avec Cléopâtre ou avec des peintres, avec des écrivains ou même avec Ada Lovelace, par exemple, qui est, comme tu le sais, la mère des algorithmes. Cette américaine, je crois, qui avait inventé les algorithmes.
Mais est-ce que tu as eu une discussion avec son robot conversationnel à elle?
Oui, tout à fait. J'ai chatté avec Cléopâtre.
Puis elle parle en français, en plus.
Elle parle en français, Cléopâtre, tout à fait. Je lui ai demandé comment elle allait, alors elle n'a pas voulu me répondre. Je lui ai demandé si elle avait vraiment eu un crush avec Jules César. Elle m'a confirmé, elle m'a dit que oui.
Ah oui?
Voilà, d'accord. Donc c'est une info intéressante.
En tout cas, elle confirme.
Voilà, exactement.
Permets-moi d'inviter mes auditeurs à aller écouter mon numérique pour entendre la suite de tes propos avec tes invités. Et puis sinon, on se donne rendez-vous. Pas la semaine prochaine, peut-être l'autre d'après.
On va quand même se retrouver la semaine prochaine, Bruno, mais on se retrouvera pour le grand débrief avec François Sorel.
François Sorel, c'est pas pareil, ça. Ouais.
Exactement.
La grosse qualité, ça.
Ouais, mais en revanche, notre petit échange en tête-à-tête, on verra ça plus tard, parce que je prends un peu de vacances, hein. Désolé.
T'es pardonné, mais elles sont au moins de te reposer.
Les Français prennent souvent des vacances.
Ouais, non, on commence pas, là.
Voilà. C'est nous, chez nous, on sait vivre. On sait vraiment bien vivre. Ça fait combien de temps que t'as pas pris de vacances, toi?
Oh, tu veux pas le savoir. Mais je te rappelle que c'est dans moins de 100 jours,
ça fait
4
mois,
les Jeux.
Ah oui? Ouais, mais c'est pour ça, je m'en vais vite avant les Jeux.
Ouais. Mais de toute façon, nous, on va se voir à Paris. Je te passe voir Vivatech, alors.
Ah oui, donc on se verra en juin à Vivatech. Super. Bah, tu seras bienvenue.
Alors, mes auditeurs pourront entendre ça en direct.
Top.
Bon, allez.
Salut Bruno.
Salut Jérôme. Cette semaine, une seule entrevue, mais quel sujet, Watson X. Par souci de transparence, je vais quand même vous mentionner que la semaine dernière, j'ai animé un événement pour IBM ici à Montréal qui justement portait sur la présentation de l'IA d'IBM. Et c'est justement les propos que j'ai entendus lors de cet événement qui m'ont donné l'idée d'inviter quelqu'un de chez IBM Technologies cette semaine. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle ou d'intelligence artificielle générative, on pense tout de suite à ChatGPT d'OpenAI ou à Gemini de Google ou encore Copilot de Microsoft, mais rarement... Depuis un an et demi, on entend le nom de IBM avec son Watson X et pourtant, IBM est et demeure un pionnier dans le domaine. Si vous avez assisté à l'une de mes conférences dans les derniers mois, vous vous souviendrez que je parle de l'histoire de l'intelligence artificielle et comment IBM a joué un rôle marquant dans l'évolution de l'IA. Je vous mentionne deux dates pour ceux qui n'ont pas assisté à mes conférences. 1997, alors que l'ordinateur Deep Blue de IBM bat le champion du monde aux échecs, on parle de Garry Kasparov, et puis en 2010, lorsque Watson, l'évolution de Deep Blue, bat deux humains au jeu télévisé Jeopardy. Depuis, IBM est toujours aussi actif dans le domaine, mais en dessous du radar, pour ses clients. Mais cette semaine, je voulais qu'on en parle de l'IA actuelle d'IBM, son Watson X, parce que bien que nous ne pouvons pas l'utiliser, vous et moi, comme consommateurs, à titre individuel, comme d'autres intelligences artificielles génératives, ben Watson X est présent dans nos vies par le biais des entreprises qu'il utilise pour nous offrir des services. Alors, pour nous parler de Watson X, je vais rejoindre à l'instant le directeur commercial principal chez IBM Technologies de IBM Québec. Bonjour Martin Dupuis.
Bonjour Bruno.
Martin, je le disais dans la présentation, IBM, c'est un des grands joueurs de l'intelligence artificielle depuis longtemps. Et c'est drôle parce que quand on regarde l'actualité, quand on la suit, j'ai l'impression qu'on vous retrouve sous le radar de l'actualité. Vous faites vos choses, vous réglez le problème des clients, vous leur trouvez des solutions, mais vous n'êtes pas à la recherche de trop de visibilité. Pourtant, Watson X, quand on parle aux gens qui l'utilisent, c'est une solution vraiment intéressante. Comment vous expliquez que vous êtes si humble que ça?
Écoutez, à l'occasion, chez nous, on aimerait l'être un peu moins. On aimerait ça être plus visible, bien sûr. On a fait au fil des années des grandes choses. Hein. On a été présent au niveau de l'intelligence artificielle avec Deep Blue avant les années 2000. Un petit peu plus tard, autour des années 2010, on a fait un grand splash avec Watson à l'émission Jeopardy. Un moment charnière, certainement, parce que ça l'a mis l'intelligence artificielle à heure de grande écoute devant des millions et des millions de téléspectateurs. Et ça avait été quand même révolutionnaire. Quelques années plus tard, effectivement, on est entré un peu plus dans une phase un peu plus spécialisée où est-ce que là, on a pris ces années-là, ces milliards de dollars-là de recherche et développement et on les a spécialisés pour l'industrie. Donc, avec à ce moment-là des verticales de marché pour lesquelles nous servions, là, que ce soit les services financiers, par exemple, le secteur public. Donc, on avait développé vraiment des distinctions, des évolutions de Watson qui avait joué à Jeopardy à cette époque-là, vraiment pour l'industrie. Et bien sûr, on n'a pas un produit Watson X. Si vos auditeurs demandent est-ce que je peux aller essayer Watson X comme d'autres plateformes qui sont disponibles au grand public, non, malheureusement, c'est une plateforme. On a fait le choix de se tourner vers l'entreprise et de développer une solution qui s'adresse directement aux besoins de l'entreprise, aux besoins des gouvernements. Et donc, on est un petit peu moins connu, bien que les gens qui sont en entreprise nous connaissent très bien.
Oui, puis vous êtes de façon transparente partout dans nos vies parce que justement, les clients de ces grandes entreprises-là au quotidien, ben, ont les services grâce à la technologie que vous développez. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup de la part de IBM dans votre choix stratégique au niveau de l'intelligence artificielle, c'est ben, de participer à Alliance AI, mais donc d'aller vers cette approche ouverte. Et lors de la présentation de la semaine dernière, je découvrais que dans le développement, par exemple, de Granite, qui est une des grandes intelligences artificielles génératives que vous avez développées, vous êtes vraiment transparent par rapport à tout ce que cette IA-là a utilisé pour faire son apprentissage. Vous avez gardé ça disponible. Et donc, en tout temps, vos spécialistes, mais aussi des clients pourraient demander d'accéder à ces informations-là pour savoir d'où vient cette source d'information qui a servi à l'enseigner et puis à quelque part d'où vient son raisonnement. Et ça, c'est pas banal, ça.
Non, effectivement. Puis je pense que ça distingue certainement IBM dans l'industrie. Vous savez, le monde du logiciel libre, l'open source, c'est pas nouveau pour nous. On a été parmi les premiers à contribuer à l'essor de Linux comme système d'exploitation. Par la suite, une des raisons, on me demande souvent, le milieu des technologies est un milieu en effervescence. Ça fait 11 ans que je suis chez IBM. Pourquoi je suis resté si longtemps? L'arrivée de M. Krishna à la tête de l'organisation, Arvind Krishna, et pas longtemps après ça, l'acquisition de Red Hat. Donc, Red Hat, qu'on a décidé de garder comme une entreprise indépendante de par la nature de ses activités. Mais c'était quelque chose de grandiose puisqu'on mettait donc, on gardait cette technologie-là ouverte avec des contributions des gens pour faire évoluer la technologie. Et ces principes-là sont demeurés au cœur de notre stratégie au niveau du développement de l'intelligence artificielle. Vous pouvez penser, bien sûr, qu'il y a des dizaines et des centaines, voire des centaines de brevets qui sont derrière toute la technologie de Watson. Mais dans le cas de l'intelligence générative, ce qu'on a décidé de faire, c'est de garder une certaine transparence. Vous avez raison, les modèles IBM, modèle Granite, entre autres, qui a été lancé l'an dernier, modèle de fondation pour Watson X et toute sa suite d'applications. Nous publions IBM Research. À chaque fois qu'il y a une nouvelle version, on publie l'ensemble des données qui ont servi à tester, à entraîner le modèle. Ça permet bien sûr aux gens de comprendre mieux ce à quoi ils vont travailler. Et ça permet de faire des choses grandioses. Ça permet de faire des choses qui, avec un modèle peut-être beaucoup plus petit, de réussir à avoir des résultats focusés qui sont aussi bons que d'avoir des modèles beaucoup plus grands, beaucoup plus massifs. Bien sûr, sur Granite, cette transparence-là, c'est un des aspects. Il y en a un autre. Watson X, c'est une plateforme qui est ouverte en ce sens que, via le partenariat avec, entre autres, Hugging Face, qui est un peu un portail vers lequel on peut aller chercher différents modèles complémentaires à ceux de Granite. Bien là, c'est vraiment l'open source dans toute sa splendeur. C'est l'industrie qui contribue, avec l'aide de IBM parfois, le modèle de la NASA. C'est la NASA et IBM qui ont collaboré ensemble. Puis ça, cette collaboration-là, elle est de longue date pour avoir un modèle géospatial pour, entre autres, prédire est-ce qu'il y aura des inondations, des feux de forêt, et ainsi de suite, des sujets qui sont au cœur des nouvelles pratiquement à toutes les semaines de nos jours, malheureusement.
Oui, puis vous faites bien de mentionner Hugging Face parce que c'est, dans le fond, c'est la force de la communauté qui veut partager et qui améliore la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais avant la pandémie, là, on a beaucoup parlé de toutes ces grandes organisations qui avaient besoin d'aide pour la transformation numérique. Après la pandémie, là, c'est le défi de l'intégration de l'intelligence artificielle. Quand vous regardez, là, parce que je sais que vous travaillez avec une équipe là, qui s'assure de desservir vos clients, mais où vous voyez le plus grand défi pour les organisations pour arriver à cet arrimage d'intégration et d'utilisation intelligente de l'IA dans leur organisation?
Oui, puis c'est un sujet, c'est une excellente question, en fait, parce qu'on nous la pose à tous les jours. Pour nous, on voit qu'il y a un enjeu, certainement, de skills, de capacité, si vous voulez, à gérer ces outils-là qui sont très, très, très puissants. On met l'humain, bien sûr, au centre de toutes ces avancées-là, que ce soit en automatisation, en intelligence artificielle, au niveau des ressources humaines, du service à la clientèle, de l'aide au codage. Donc, on garde l'humain au centre des différents processus qu'on vient moderniser. Et cet humain-là, ben, il faut l'entraîner pour qu'il puisse maîtriser les outils pour en dégager les résultats qui sont attendus. Donc, on a investi beaucoup dans une académie qui est gratuite, une académie qui nous permet d'aller chercher là, donc des connaissances sur l'intelligence artificielle. On pense qu'avec cette avancée-là, on va avoir entraîné gratuitement près de 2 millions de personnes d'ici 2026. Et ce que ça permet de faire, en fait, c'est que, d'une part, l'intelligence artificielle puis l'automatisation vont venir gérer des tâches répétitives, mais donc on vient donc redistribuer notre force, nos employés vers des tâches à valeur ajoutée où est-ce que là, tout le monde va en bénéficier, que ce soit l'entreprise, ses clients, les concitoyens des différents gouvernements qui vont placer l'intelligence artificielle de cette façon-là dans le cœur de leurs activités, mais vraiment là, avec l'humain bien en contrôle.
Vous êtes présent autant dans le secteur public que dans le secteur privé. Est-ce que vous avez l'impression que le défi est pareil dans les deux secteurs?
C'est un peu différent, mais je vous dirais que ça revient en bout de ligne aux mêmes enjeux. Parfois, dans le secteur privé, on va essayer peut-être un peu plus rapidement. On va essayer d'innover pour se distinguer de la compétition, des entreprises qui compétitionnent avec nous, qu'elles soient locales ou qu'elles viennent de partout dans le monde maintenant.
Donc, la prise de risque est plus importante aussi?
Ben, peut-être un peu, si on veut, parce que souvent, on a l'impression que si on ne prend pas de risque, le statu quo n'est pas acceptable. Donc, pratiquement tous nos clients ont investi dans des groupes d'innovation. Et l'an dernier, là, à partir du moment où on a lancé WatsonX en juin 2023, on s'est attelé à aller rencontrer nos clients. Et la réponse était vraiment, vraiment formidable. Tout le monde voulait savoir, qu'est-ce que vous faites exactement? Tu sais, tout le monde se souvenait de ces belles années de Géopardy dont je parlais tantôt. Et là, les gens voulaient savoir, comment est-ce que je vais mettre ça à l'œuvre? Et on a fait plus d'une centaine de rencontres au Québec avec nos différents clients. Plusieurs de ces rencontres-là ont découlé sur des projets pilotes. Donc, il y a quelques projets pilotes actuellement sur WatsonX. Ça, c'est très, très, très intéressant. Du côté des gouvernements, bien sûr, il y a le cadre législatif qui doit s'ajuster un peu. On le voit avec le Canada, avec la loi 27, par exemple. On est en train de faire ce carré de sable-là pour bien encadrer l'IA. En même temps, les ministères, les organismes parapublics, publics, ils ont tous les mêmes enjeux. La pénurie de main-d'œuvre, c'était pas il y a pas si longtemps. Ce qu'on dit, c'est de faire plus avec le même nombre d'employés. Donc, pas nécessairement des réductions de personnel. Et quand on arrive avec ces angles-là ou ces visions-là, les gens ils sont très intéressés à nous rencontrer aussi, là, autant du secteur public que du secteur privé.
Récemment, il y avait le premier ministre Justin Trudeau qui annonçait l'investissement là, de 2,4 milliards de dollars dans l'infrastructure, mais aussi dans des sujets qui sont adjacents là, à l'infrastructure, mais qui touchent au domaine de l'intelligence artificielle. Et dans sa conférence de presse, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il parlait de l'importance de la souveraineté au niveau de l'intelligence artificielle. Comment vous abordez ça avec WatsonX?
Bien, écoutez, WatsonX, bien sûr, au niveau de la souveraineté, lorsqu'on parle de souveraineté, c'est souvent le cadre législatif du pays où est-ce que l'intelligence artificielle ou des données propres va devoir s'appliquer. Donc, pour nous, on a, dans cette plateforme-là, on a développé un module qui permet de faire la gouvernance et qui s'aligne justement à ces avancées-là, qui pourra faire office de baromètre pour s'assurer que l'on respecte justement ce cadre législatif-là, qu'on respecte notamment la sécurité des données lorsqu'on est hébergé. Donc, il y a des belles choses, des belles annonces qui s'en viennent chez IBM en ce sens-là. Bien sûr, pour nous, le gouvernement du Canada, grand partenaire, grand client avec IBM de très longue date. Donc, c'est certain que IBM, on va continuer de travailler avec les gens en place là-bas pour s'assurer que l'innovation que WatsonX amène va faire rayonner le Canada à travers le monde.
En terminant, il y a un gros événement chez IBM qui s'en vient. Je pense que c'est au mois de mai, l'événement Think qui va se dérouler à Boston. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cet événement-là?
Bien, écoutez, à chaque année, c'est une grande messe pour les IBMistes. On attend ce moment-là avec impatience. L'an passé, on savait qu'il y avait quelque chose de spécial qui était dans les cartons. C'est WatsonX qui est arrivé et ça nous a vraiment pas pris par surprise parce qu'on savait qu'il y avait des grands projets en ce sens-là, mais d'avoir la plateforme aussi complète, aussi achevée à ce moment-là et qui déjà avait des clients qui sont montés sur l'estrade pour parler des avancées qu'ils avaient vues dans les programmes Alpha et Beta. C'était vraiment unique. Donc, je m'attends à un peu la même chose. Je ne suis pas dans le secret des dieux. J'aimerais bien l'être, mais ce que je peux vous assurer, Bruno, c'est que ça va être très excitant. Puis ça va me faire plaisir de revenir peut-être dans une autre édition de mon carnet pour vous parler justement de ce qui aura été annoncé à ce moment-là.
Bon, on va prendre le rendez-vous. Martin Dupuis, je rappelle que vous êtes directeur commercial principal chez IBM Technologies pour IBM Québec. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis, à l'avance, tiens, je vous souhaite un bon
Think.
Exactement, un bon événement. Au revoir.
Parfait, merci beaucoup, Bruno.
Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref ? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet.
Cette semaine, Stéphane Ricoul nous propose de s'arrêter sur la face cachée du Costa Rica.
Si je vous parle du Costa Rica, l'image qui vous vient en tête, c'est certainement verdure luxuriante et plages accueillantes. Et vous n'aurez pas tort, bien entendu. Mais le Costa Rica a un secret bien gardé. Sa principale catégorie d'exportation n'est plus le café ou les bananes, mais bel et bien les dispositifs médicaux. Et demain, il se dirige vers les technologies liées à, devinez quoi, l'intelligence artificielle. Vous connaissez tous le CHIPS Act et le Science Act, prévus tous les deux pour faire pleuvoir les subventions en sol américain afin de construire des installations dans le domaine des semi-conducteurs et ainsi réduire la dépendance des États-Unis face à Taïwan et donc la Chine ultimement. Eh bien, ces subventions ruissellent également vers certains voisins amis des États-Unis comme le Panama ou le Costa Rica. Et il semblerait même que prochainement ce soit le cas pour la République dominicaine. Je vous le dis, demain, vous ne verrez plus vos destinations soleil dans un tout inclus de la même façon. Nous avons besoin d'alliés plus proches de chez nous, aurait dit Madame Raimondo, secrétaire américaine au commerce, chargée de distribuer des dizaines de milliards de subventions pour garantir que les Américains restent à la pointe de l'intelligence artificielle et d'autres technologies critiques à l'avenir. Et pourquoi le Costa Rica ? Parce que dans les années 90, Intel y a construit une usine. Cela a ouvert la porte à davantage d'usines et d'industries et par conséquent à une main-d'œuvre de plus en plus orientée vers les technologies. C'est leur botte secrète, la main-d'œuvre. Bon, ok, je l'avoue, les incitations fiscales, les réformes réglementaires et un réseau d'énergie renouvelable à 99%, ils sont aussi pour quelque chose. Mais cela démontre bien la volonté de ce pays d'attirer ce genre d'investissement, de déployer une stratégie nationale pour développer cette industrie. C'est certainement pas pour rien que Rodrigo Chavez, le président du Costa Rica, a lâché à un moment donné un « Bienvenue au Costa Rica », un pays où tu ne seras pas confronté à des formalités administratives. Et tout ça devant Gina Raimondo, mais aussi devant le général 4 étoiles qui dirige le commandement sud des États-Unis, Laura Richardson. Mais au-delà du CHIPS Act et du Science Act, il y a l'America's Act. Nouveau projet qui souhaite réorganiser les relations avec les voisins amis, les mettre sur la voie de l'adhésion à l'accord États-Unis-Mexique-Canada, créer un partenariat commercial permanent en constante expansion entre les pays de l'hémisphère occidental et ainsi contrer le contrôle croissant de la Chine sur l'industrie manufacturière et la géopolitique mondiale. La volonté semble claire. Elle l'est tout au moins dans les propos tenus par un représentant américain, Maria Elvira Salazar, pour ne pas le nommer, qui, lors de la présentation du rapport sur les Amériques, a déclaré que « il est grand temps de libérer tout le potentiel économique des États-Unis et de l'Amérique latine. L'America's Act est la solution pour développer notre économie et apporter la stabilité à l'hémisphère. Ce projet de loi créera des opportunités commerciales et des emplois de classe mondiale à Miami, aidera nos alliés en Amérique latine, renforcera la résilience des chaînes d'approvisionnement américaines et combattra l'influence de la Chine. Plus clair que ça, c'est difficile. Mais vous me direz après tout, si l'augmentation des échanges commerciaux avec l'Amérique latine permet de construire une base industrielle qui autrement aurait été transférée à l'Asie, pourquoi pas ? Cela pourra rendre les Amériques plus fortes et non plus faibles. C'est justement le modèle qui a été adopté en Asie, il y a longtemps déjà, avec 22 pays de l'hémisphère occidental, dont le Costa Rica, qui ont adhéré à l'initiative chinoise Ceinture et Route, faisant de la Chine l'investisseur le plus important dans une grande partie de l'Amérique latine. Mais il semblerait que l'attrait ou la chance de devenir un centre de micropuces semble avoir fait pencher la balance en faveur des États-Unis. Pour preuve, Huawei, encore une fois, a comme par hasard été exclu brusquement de la construction du réseau 5G du pays. Vous pouvez imaginer à présent que la diplomatie de la chaîne d'approvisionnement va devoir jouer un rôle important. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles, a déclaré le président de Costa Rica. Nous n'imaginons pas l'avenir, nous le construisons avec ceux avec qui nous partageons les valeurs. Une fois tout cela dit, nous sommes tout de même légitimés de nous poser la question si les États-Unis ne sont pas tout bonnement en train de bâtir leur propre compétition. D'autant plus que non seulement le Costa Rica semble très bien préparé à l'ère numérique, avec un niveau d'enseignement à la pointe, pour preuve là-bas l'intelligence artificielle y est aussi enseignée, mais qu'en plus le Costa Rica peut compter sur un niveau d'attractivité et de rétention des talents très fort. Mais les États-Unis ont-elles le choix ? La manière dont elles relèveront les défis posés par l'intelligence artificielle et par une Chine bien plus puissante déterminera leur avenir. Elles ont le choix de le faire seules ou avec des voisins amicaux. Et dans ce contexte, l'échiquier mondial du semi-conducteur les incite à bouger et faire preuve d'un peu d'humilité, car les États-Unis ne sont pas les seuls à vouloir prendre une place de choix. La Corée du Sud a été très claire dans ses intentions de devenir un leader dans le domaine, en investissant près de 7 milliards de dollars dans les domaines de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs d'ici 2027. Et elle est bien placée pour atteindre son objectif. Les semi-conducteurs sont déjà actuellement son principal produit d'exportation. En mars, les exportations de puces ont atteint 11,7 milliards de dollars, leur niveau le plus élevé depuis près de 2 ans. Au début du mois, le Japon a également annoncé des subventions pouvant aller jusqu'à 3,9 milliards de dollars à une entreprise de fabrication de puces dans le cadre d'un plan visant à relancer sa propre industrie des semi-conducteurs. Les Pays-Bas ont récemment annoncé investir 2,5 milliards de dollars pour garder des entreprises néerlandaises stratégiques sur son territoire suite aux menaces de délocalisation du champion des semi-conducteurs ASML. L'Union européenne a aussi acté à l'été dernier un plan baptisé lui aussi Chips Act qui fixe l'objectif de doubler sa part de marché actuelle d'ici la fin de la décennie, à savoir passer d'environ 10% du marché mondial à 20% en 2030. Elle compte ainsi investir plus de 100 milliards d'euros dans sa politique de production de semi-conducteurs pour devenir autonome en la matière. Bref, tout ça pour dire que lors de vos prochaines vacances à l'extérieur du pays, les chances sont bonnes pour que vous tombiez sur une destination pour laquelle les politiques économiques favorisent l'essor de l'intelligence artificielle et de son écosystème. Plus personne à présent n'y échappe.
Comme à l'habitude, en fin de carnet, on va aller rejoindre mon ami et collègue Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François.
Bonjour Bruno.
Alors cette semaine, tu as une discussion avec un architecte pour parler UX.
Oui, c'est Hugues Daly qui est vice-président architecte à la firme Edifica que j'ai rencontré lors d'un mandat à l'automne. Puis ça a été là, ça m'a intéressé dès le départ. Ça a été un coup de foudre professionnel. J'aime beaucoup la façon dont il gère les trucs parce qu'il la gère selon des méthodes qu'on connaît nous dans l'UX, qu'on a appris à la dure dans les dernières années. Puis c'est toutes les entrevues qu'on a pu faire sur les ateliers, la recherche également et tout ça. Et ils sont pas tant de bureaux d'architectes à appliquer cette méthodologie-là, puis on va l'entendre dans l'entrevue tantôt. J'ai trouvé ça intéressant et en plus, ils gèrent leur entreprise comme un collectif. Eh bien, tu sais, mon entreprise P2Co, co pour collectif, donc j'ai vraiment là aussi beaucoup accroché sur cette partie-là positivement. Donc, c'est super intéressant parce qu'ils appliquent des méthodologies très orientées sur l'humain. On s'y attendrait pour des architectes, mais selon ce que M. Daly nous dit dans l'entrevue, c'est pas tout le temps le cas dans tous les bureaux d'architectes. On est encore beaucoup sur un mode, il y a un architecte vedette dans l'entreprise, comme dans les agences, il y a un designer ou il y a ce genre de spécialisation-là. Et non, eux, ils se gèrent en collectif, ils ont des méthodologies où ils consultent les humains, et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. C'est un petit coup de foot professionnel.
Ouais, ben c'est exactement ce que j'allais dire. On sent le coup de cœur. Alors, allons-y, écoutez cette rencontre, et nous, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bye.
Merci, salut.
Vous êtes approprié les méthodologies d'atelier. Consulter, mais plus que consulter. Les ateliers, on s'entend, c'est pas juste des questions qu'on pose, on fait travailler les gens de façon commune. Comment vous vous êtes approprié ça? Ça vient d'où chez vous, les ateliers, ou cette façon-là de collaborer puis de, justement, d'investiguer un peu tous ceux qui sont touchés par les projets architecturaux? Là.
En fait, l'atelier, j'aime beaucoup quand tu me parles d'atelier, effectivement. Je trouve que c'est riche comme terme, parce que tout le monde travaille ensemble, puis ce collectif-là, il est fort. Nous, on aime bien travailler avec ce qu'on appelle les PCI, les fameux PCI, les processus de conception intégrée. C'est pas nouveau. Il y a quelques années, il y a un groupe probablement que je pourrais pas savoir c'est qui a mis le doigt dessus puis qui a décidé qu'on appelait ça des processus de conception intégrée. Je pense que tout bon projet, je veux pas généraliser là, mais tout projet que tu veux inclusif et que tu veux intégrer le maximum de partenaires puis d'avoir le maximum des parties prenantes qui vont endosser le projet devrait passer par la PCI. On s'entend que c'est pas tous les projets qui peuvent se le permettre non plus parce qu'il y a une longueur à faire un PCI qui peut varier. Il y a des frais aussi à faire un PCI. Mais nous, on a pris le parti pour des projets d'importance ou des projets que le client veut le faire, là, d'intégrer justement l'ensemble des intervenants. Puis quand je dis ensemble intervenants, c'est pas simplement l'ingénieur structure, l'ingénieur mécanique puis l'architecte. Ça, on appelle ça de la coordination. Mmh. Pour nous autres, un processus de conception intégrée, c'est de dire, OK, on a le client autour de la table. On peut avoir les représentants de la ville, les représentants de la voirie, quelques représentants clients. Et là, je suis pas en train de dire que tout le monde a son mot à dire, puis tout le monde va prendre le crayon, puis tout le monde va dessiner la bâtisse. Là. On n'est pas tous des bons concepteurs, soyons honnêtes. Mm-hmm. Par contre, les idées, il n'y a pas de mauvaises idées. Hein. Donc, tout le monde va participer et tout le monde va voir le projet de son angle à lui. Si on parle avec les gens de la voirie, ils ont un angle spécifique. Si on parle avec les gens qui vont construire les rues, ils ont un angle spécifique. Mais si tu rassembles... Ils ont des enjeux très importants là, à ne pas négliger. Il ouais. faut les entendre dès les prémices du projet. Puis c'est quand tu mets tous ces gens-là ensemble, incluant le client, tu te rends compte qu'il y a des contraintes, qu'il y a des freins. Mais là, tout le monde en parle. Mais la plupart de ces contraintes-là et de ces freins-là, bien, je ne veux pas dire qu'ils s'effacent, mais le monde trouve des solutions ensemble. Tout le monde devient partie intégrante de la solution. Fait que c'est rien de vraiment nouveau. Mais le fait de le nommer, de créer un processus autour de ça qui nous appartient pas à nous, hein. On s'entend, la façon de concevoir un processus de conception intégrée, c'est une méthode. Nous, on a notre propre méthode à nous qui fonctionne très bien chez Difica et qui est reconnue et qu'on fait beaucoup de PCI. On a en fait un groupe, ma collègue Mélanie Pitt encadre beaucoup de PCI à l'extérieur, même pour des projets externes. Donc, on a une façon de faire, une méthodologie qui est concluante à mon avis.
Et pareil comme dans le numérique, on en parlait en pré-entrevue, vous utilisez du post-it, vous allez vraiment chercher le matériel chez les gens, chez tous ces gens-là donc, que tu nommais tout à l'heure, ils sont eux-mêmes représentants de gens qui vont avoir à interagir avec le bâtiment, donc les enjeux, les personas et tout ça, j'entends que vous travaillez beaucoup comme dans le domaine du numérique, ou même parfois, malheureusement parfois, pas assez souvent dans le domaine. Mais j'imagine que c'est un peu la même chose aussi dans le domaine de l'architecture. C'est probablement pas tout le monde qui prend la peine de s'asseoir autour de la table en amont comme ça, tous les gens intéressés.
Non, effectivement, c'est pas tout le monde qui prend cette peine-là. Et même nous, à l'interne, on peut pas se permettre de le faire sur chacun des projets. Ne serait-ce que c'est pas nécessairement nous, autant que le projet qui ne le permet pas. Là, à un moment donné, il faut être à l'écoute des besoins du client, il faut être à l'écoute des besoins du projet. De par notre nature, c'est sûr qu'on va pousser vers le PCI parce qu'on y croit, ça a des répercussions importantes sur le projet. La façon d'y arriver, effectivement, on parlait du post-it, on s'ajuste à la clientèle qu'on a, au groupe qu'on a et à la grosseur du groupe. Ça peut être des post-it, ça peut être des interactions numériques, ça peut être des sketchs, des maquettes. Je pense que ça dépend de où est-ce qu'on arrive puis au moment dans lequel qu'on arrive. Mais effectivement, il y a des firmes qui ne travaillent pas du tout avec cette méthode-là, puis ben, ça leur appartient, en fait. Je pense que nous autres, pour l'avoir découvert puis de le mettre de l'avant, de voir l'impact que ça a sur les dossiers, c'est intéressant. Puis c'est pas propre à l'architecture, hein. Tu le nommes très bien. Il y a plein d'autres secteurs qui vont l'utiliser. Il y a des firmes... des grandes firmes industrielles qui existent ou ce que les gestionnaires utilisent ces méthodes-là, effectivement.
Et l'autre aspect qui m'a intrigué beaucoup aussi, on en a parlé, c'était la recherche. Vous prenez la peine de faire de la recherche. Et encore là, tu le disais, c'est pas nécessairement la norme dans les bureaux d'architectes de dire on fait de la recherche, on va aller sur le terrain. Évidemment, on en a parlé aussi, l'ensoleillement et les choses qui sont vraiment intrinsèquement liées à l'architecture. Oui, on le fait. D'aller consulter des gens sur le terrain, c'est des choses que vous faites également?
C'est ce qu'on fait. En fait, pour se préparer pour un PCI, c'est sûr qu'il faut consulter un peu pour être bien préparé, pour arriver là à froid. Mais même un projet dans lequel on ne fait pas de PCI pour plein de raisons, connaître notre site, connaître notre clientèle est ultra important. C'est sûr qu'on a des spécialistes dans chacun des domaines. Qu'on parle de l'industriel, de la santé, du scolaire, de l'habitation, on a ce qu'on appelle des leaders, comme beaucoup de firmes probablement, des spécialistes dans ce domaine d'expertise-là, mais à la base, l'architecte est relativement généraliste, hein, un architecte complet, donc qui passe de la conception à l'exécution, qui connaît très bien sa technique, qui est capable de suivre le chantier. Par contre, le day-to-day, en bon français, notre quotidien nous appelle à s'assurer qu'on a un champ d'expertise peut-être plus précis, qui fait qu'on dessert mieux notre clientèle. Quand on est passionné, moi, personnellement, ce qui me passionne, c'est l'habitation communautaire, l'habitation privée, le maintien d'actifs, mais tout ce qui tourne autour de l'habitation. Quand on est un passionné, c'est là qu'on tombe sur les tables de concertation, qu'on est proche des groupes communautaires, qu'on est proche des promoteurs, puis qu'on connaît ce milieu-là. Chez Dilka, on aime que nos différents partenaires se connaissent, se rencontrent et développent ensemble. Donc, c'est pas quelque chose qui est exclusif. On est plutôt inclusif dans nos relations d'affaires. Donc, c'est là qu'on fait de la recherche pour peaufiner, en fait, notre savoir-faire, en plus de notre savoir-être, mais bien servir notre client. Donc, connaître le site, connaître les sites, connaître le secteur dans lequel on s'implique, connaître notre client, faire des recherches sur notre client, faire des recherches. C'est sûr qu'en tant qu'architecte, on fait toujours des recherches sur les matériaux, sur les c'est notre pain, notre beurre quotidien, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Je reviens à l'école, hein. Sur les bancs d'école, on fait beaucoup de recherches. Là, il faut s'assurer que cette recherche-là est un petit peu condensée puis peut-être mieux cernée, mais la recherche est importante. Ça fait partie de la science du bâtiment, de la science de l'architecture.
Et atelier plus recherche, plus en fait, est-ce que vous voyez une corrélation aussi avec des économies que vous faites sur le projet? Si vous avez consulté, comme qui disait tout à l'heure, le monsieur de la voirie, tous les gens qui sont impliqués au niveau de la ville, etc., est-ce que ça a une implication directe au coût du projet ou au débordement que ça pourrait causer si on le faisait pas?
En fait, c'est plus par rapport au débordement. Encore là, quand on fait un projet d'architecture, on n'est pas en train de faire un bibelot, hein. On fait pas une tasse à café. Parce que tu peux la prendre dans ta main puis voir tout ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Tu fais un plan d'habitation de 350 ou 1000 unités d'habitation. Si tu as regardé chaque coin, mais c'est que tu y as passé probablement une bonne partie de ta vie. Donc, ton projet s'est pas réalisé. Donc, c'est la théorie, c'est pas bon. L'objectif de faire de l'habitation, je reviens à ma passion, c'est loger des gens. Donc, j'ai beau faire de la recherche, faut à un moment donné que je sois capable de construire les projets puis de les réaliser. Donc, l'avantage de faire justement cette recherche-là puis devenir un leader dans le domaine et surtout de rencontrer beaucoup de gens, c'est que ça donne beaucoup d'angles de vue, ça donne un historique et un bagage assez important et de mieux desservir notre clientèle, en fait. L'objectif d'un projet puis de principalement de la présence de l'architecte, c'est de remettre en question un peu les idées préconçues de ton client, de l'aider à pousser plus loin puis à le confronter dans ses assises habituelles avec lesquelles il est habitué de travailler pour plein de bonnes raisons, hein. Puis c'est pas parce qu'on l'emmène ailleurs que ce qu'il fait est pas bon, mais ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'il prenne la bonne décision. Donc, de faire de la recherche, de faire des PCI, de rencontrer plein de gens du milieu, de différents acabits puis de différents domaines, ça nous permet de challenger le client, de relancer le client. Et ça nous permet, en fait, de voir s'il prend les bonnes décisions puis qu'il en soit conscient. Qu'il prenne une mauvaise décision, mais qu'il en est conscient, ben.
Et c'est intéressant parce que ce rôle de personne qui pense différemment du reste de l'industrie, on s'entend, les entrepreneurs ou les gens qui veulent construire, tous ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils sont pour l'équivalent pour nous dans le IT, dans les projets numériques, des gens d'IT, qui sont des gens un peu cerveau droit, si on veut. Et vous arrivez avec une mentalité de « on va vous questionner, on va vous forcer à penser aux utilisateurs qui s'en viennent ». C'est un peu l'équivalent du corps de métier que nous sommes dans l'UX. On amène cette notion de design, cette notion de penser différemment.
C'est essentiel. Et en fait, quand tu penses différemment, ta grande force, à mon avis, c'est de comprendre ton interlocuteur. Donc, en même temps, même si on est souvent, les architectes sont vus comme des rêveurs, des penseurs. C'est important qu'on connaisse bien notre technique et c'est probablement une de nos forces. On est des gens excessivement techniques à l'interne. Donc, on parle le même langage. On est capable de parler le même langage technique, les problèmes de réalisation. Un bon projet, c'est un projet qui va durer dans le temps, qu'il n'y a pas de fuite et de détails mal conçus. Donc, on conçoit bien nos projets, mais avant de s'arrêter sur la finalité, faut rêver. Sinon, la ville, elle va être plate.
Exact. Et l'autre avantage que vous avez, étant un autre professionnel, j'ai l'impression, c'est d'être en mesure de continuer à être le gardien de l'idéologie initiale de votre projet jusqu'à sa construction finale, en théorie.
Tout à fait, mais on est en mesure de faire, là, je veux dire, des sacrifices, là, mais faut faire preuve d'agilité. Mmh. On a le choix, puis je reviens avec le discours que j'avais tantôt sur l'habitation. J'ai le choix de construire des fois des projets communautaires qui vont être super beaux et qui vont rester super beaux dans les livres, ou de faire de la rationalisation puis faire un beau projet qui se construit. Ouais. La réponse est assez simple. Surtout en crise du logement, il faut construire. Mais faire beau, faire bien, nécessite des fois juste un petit peu plus de réflexion, puis on y arrive. Puis le projet, il n'est pas obligé d'être une boîte de carton LED, là. Il faut faire des beaux projets parce que le projet, il est là pour 100 ans. Donc, ce qu'on aime bien faire, nous, c'est de faire travailler le collectif à la réalisation d'un beau projet. Donc, travailler tout le monde ensemble à s'assurer qu'on rationalise le départ, qu'on donne au client le projet qu'il veut dans les paramètres qu'il veut, dans l'échéancier qu'il veut, et dans le budget, évidemment, qu'il veut. Tu as les moyens de t'acheter une Lada, va pas magasiner chez Porsche, ils ne sont pas à bonne place.
Moi, le premier, j'utilise la métaphore de l'architecte dans le monde de la construction. À qui veut l'entendre dans le monde du numérique. Un projet numérique sans architecture, sans design, si on veut, parce qu'architecture peut être associée à d'autres choses dans le numérique, c'est un projet qui est à risque. Nous, on n'a pas un ordre professionnel qui oblige à tous les grands projets numériques, mais on les voit, les grands projets qui ont des failles, c'est parce qu'ils ont manqué justement de consulter les bonnes personnes et ou de s'aligner sur les besoins de leurs utilisateurs finaux. Et ça, c'est souvent des catastrophes où on a dépensé beaucoup, mais on se retrouve avec quelque chose à la fin qui ne correspond pas aux besoins ou à la réalité de l'utilisation. Ça, c'est quand même grave.
Effectivement, le temps de réflexion, c'est on le voit, ça tend à changer, hein, mais le temps qui est pris pour de la réflexion pendant longtemps, on dirait que les gens y croyaient moins. En architecture, on est un peu... On a peut-être un peu créé ça aussi hein, des années 70-80. Tu avais beaucoup d'architectes, surtout 70, qui regardait moins l'architecture classique, qui voulait juste faire les grands projets avec beaucoup de notoriété. Donc, il y a une part du marché qui était complètement négligée. Et on voit que ça revient de plus en plus. Les gens veulent faire affaire avec des architectes, ne serait-ce que pour penser différemment, pour avoir un projet qui se démarque. Ça ne veut pas dire un projet qui se démarque, là, que c'est le bibelot dans la ville par rapport aux autres qui est très cartésien, mais simplement qui est bien réfléchi par rapport aux besoins du client. Donc, même dans la maison unifamiliale, on les voit de plus en plus. Et évidemment, tout projet ne peut pas être un projet de concours non plus. Il faut faire attention.
Oui, non, c'est ça. Comme tu disais, je pense qu'un bon projet, c'est un projet de compromis, de bon design versus son utilité dans la ville et face à ce que le client est bien prêt à payer également. Là.
Tout à fait. Exactement.
Hugues, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette belle conversation. C'était vraiment très inspirant.
Grand plaisir. Merci de l'invitation.
Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à nos invités. Merci à mes collègues Jérôme Colombin, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin, une version écourtée, mais tout de même, hein, vous m'avez donné de votre temps, j'apprécie. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Entre-temps, ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet avec une durée qui ressemble plus à celle d'habitude. Et puis, ben, entre-temps, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, portez-vous bien. Au revoir.